nous ignorons que nous avons une clé qui peut ouvrir toutes les portes. Et nous l'utilisons très rarement, ou nous l'utilisons mal, cette clé. Il y a une façon de mettre la clé dans la porte pour ouvrir une porte. Si vous la mettez à l'envers, vous allez être dedans pendant une heure à essayer d'ouvrir, impossible, et pourtant c'est la bonne clé. Il faut savoir utiliser le nom de Jésus, mes bien-aimés. Il faut pas l'utiliser un peu comme certains qui disent « je mets le sang de Jésus sur ma maison, le sang de Jésus sur la voiture, le sang de Jésus sur mon meuble ». Ils utilisent mal le sang de Jésus. C'est un sang qui est précieux. C'est un sang que, quand Dieu a vu ce sang présenté devant lui, parce que la Bible nous dit Jésus est rentré avec son propre sang. Et la Bible nous dit qu'il a fait la purification des lieux célestes. C'est-à-dire, certains utilisent le nom de Jésus pas comme il faut. Imaginez-vous toutes les fois où vous avez utilisé ce nom en vain. Sans connaître, sans vraiment l'utiliser à juste titre, à juste mesure. Si vous utilisez ce nom comme il se doit, je dirais en laissant le Saint-Esprit utiliser ce nom par votre bouche, je peux vous dire, vous allez vous fatiguer de moins en moins. Vous serez de moins en moins épuisé parce que vous ne mesurez pas que derrière ce nom, il y a une personne. Et quand vous utilisez ce nom comme il le faut, c'est un nom qui brise les liens, qui ouvre des portes et qui vous donne une vision sur l'horizon, sur le futur extraordinaire. Est-ce que vous allez utiliser cette clé comme il le faut? Ou du moins, je pose la question autrement, est-ce que vous voulez que Dieu, par son Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, vous aide à utiliser cette clé? Vous le voulez ça? Moi aussi je le veux. Je le disais tout à l'heure, je dis Seigneur, mais quel gâchis. Bien souvent, ça m'est arrivé, parce que c'est pas parce que je suis là, je suis mieux que vous, hein. Attention, hein. C'est la grâce de Dieu qui me permet d'être là. La Bible nous dit que celui qui se croit debout, c'est tout. Si je pouvais déplacer le pupitre, le mettre en bas, je serais encore mieux content que vous. Je veux dire par là, je disais au Seigneur, combien de fois j'ai utilisé ce nom sans vraiment mesurer la valeur de ce nom, la puissance qu'il y a derrière ce nom, la personne qui porte ce nom, combien de fois je l'ai utilisé un peu à la légère comme ça, et même des fois en faisant un peu de blague. Non, ressaisissons-nous, humilions-nous, demandons pardon à Dieu. Et disons, Seigneur, je veux qu'à partir de maintenant, utilisez ce nom, le nom de Jésus. C'est un nom qui vient du ciel. Adam, c'est un nom que Dieu lui a donné. Jésus, c'est un nom qui vient du ciel. Et ce nom, c'est le seul nom quand les démons, Satan lui-même, il entend ce nom prononcé comme il le faut, il prend la fuite. Vous savez, des fois, on est là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah ben, c'est déjà même trop. Une seule fois, vous utilisez ce nom, comme il le faut, le mauvais esprit ne reste pas. Réfléchissons un petit peu, combien de fois nous l'avons utilisé comme ça, comme si c'était comme quelque chose de... On s'est habitué à ce nom, mais déshabituons-nous, s'il vous plaît. Demandons à Dieu de nous donner de faire 3 pas en arrière. Parce que ce nom-là, et même les démons, quand ce nom est prononcé, vous savez ce qu'ils font? Ils tremblent. Nous, quand ce nom est prononcé, quelquefois ça ne nous fait aucun effet. Parce que nous nous sommes habitués à ce nom. Que Dieu nous donne à nouveau une nouvelle crainte du nom de la personne de Christ. Vous verrez que on se fatiguerait moins. L'adversaire n'oserait même pas s'approcher. Vous savez, c'est comme si vous avez, souvent les enfants à l'école, et quand ils ont un grand frère qui n'est pas squelettique, mais qui est baraqué, ils disent « je vais appeler mon grand frère ». Tout de suite, les copains ils disent « ah bon, il est comment ?»« Eh ben, il est grand, il est fort ». Et tout de suite, ils arrêtent de l'embêter. Ben nous, il faut qu'on sorte cette carte, ce nom, quand il le faut. La Bible nous dit quand on l'utilise, la Bible nous dit que la parole de Dieu, quand elle est envoyée, elle ne revient pas à Dieu sans qu'elle n'ait accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Le nom de Jésus, quand nous la confessons selon la volonté de Dieu, eh bien, je peux vous dire, c'est un nom quand elle part, quand ce nom-là est prononcé, eh bien, quand ce nom revient, vous savez avec quoi il revient ? Il revient avec des mauvais esprits qui sont liés, des maladies qui sont liées, parce que c'est au nom de Jésus que toutes ces choses se font. Les maladies, les puissances des ténèbres sont liées. C'est un nom qui lie et qui libère en même temps. Amen. Réfléchissons quelques minutes à ça. Et vous verrez que on ne sera pas de ceux qui diront, comme dit le Seigneur Jésus, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ?» Et Jésus dira, « Ah bon, je ne vous ai jamais connu, vous, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. » Et ce nom doit être confessé avec un cœur pur. Réfléchissez 5 minutes. Quand nous le confessons, confessons ce nom quand notre cœur est pur. Sinon, ça sera en vain, vous le confessez. Et le fait de le confesser sans tenir compte de la valeur de ce nom, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on se familiarise facilement avec les choses. On va se familiariser avec ce nom et pourtant il ne faut pas se familiariser. Gardons nos distances par rapport à ce nom. Expérimentons la puissance de ce nom. Est-ce qu'il y a des malades au milieu de nous cet après-midi? Des gens, des personnes, des bien-aimés qui doivent aller chez le médecin ou qui doivent se faire opérer dans les semaines, dans les jours à venir? Levez la main. Mettez-vous debout à votre place et nous allons prier pour vous. Et vous qui n'êtes pas malade, qui êtes en bonne santé grâce à Jésus, vous allez vous unir à nous pour que le Seigneur Jésus, justement, puisse poser ses mains sur nos frères et sœurs qui sont debout et qui, dans quelques temps, vont se retrouver entre les mains des hommes, des chirurgiens ou des médecins. Mais nous allons demander à Jésus, à Dieu notre Père, que si ils ou elles doivent être touchés par un médecin, quel qu'il soit, que ça soit la main du Seigneur Jésus et la main de Dieu qui conduit la main de cet homme ou de cette femme. Vous êtes d'accord? Pour que rien ne soit touché de manière excessive dans le corps de nos sœurs et de nos frères qui sont debout. Amen, mes bien-aimés. Alors mettons-nous en prière quelques minutes. Tu nous as dit prier les uns pour les autres. Et c'est ce que nous faisons maintenant, notre Père. Nous sommes devant toi. Tu m'as rappelé, tu nous as rappelé à nous, tes enfants, combien, quelquefois, nous nous sommes familiarisés à ce nom que tu nous as révélé, le nom de Jésus. Nous voulons laisser ton Saint-Esprit enlever, nettoyer, enlever toute forme de familiarité, d'habitude qui s'est installée en nous, afin que nous puissions apprécier à nouveau, de nouveau, ce merveilleux nom. Et quand nous le confessons, il est doux à notre palais. Et ô combien ce nom a une douceur, mais aussi une puissance. Et derrière ce nom, il y a une personne. Il y a un être qui est cher à ton cœur. Ô Dieu, notre Père, c'est Jésus, ton Fils. Alors nous invoquons ton nom. Ô Dieu, nous invoquons le nom de Jésus. Oh, quel beau nom! Quel merveilleux nom! Quelle puissance! Et derrière ce nom, il y a la guérison. Quand ce nom rencontre la foi en Dieu, ce nom agit puissamment. Et nous te demandons que ce nom agit puissamment dans le corps de nos frères et sœurs qui sont là cet après-midi. Et nous souhaitons, nous désirons quelque chose, c'est que futur, dans les semaines, dans les jours à venir, que si les médecins font à nouveau un examen pour bien confirmer les choses, qu'ils soient dans la confusion. Parce que le nom de Jésus est une puissance. Puissance de guérison. Puissance de salut. Puissance qui relève. Et c'est ce que tu es en train de faire maintenant. Tu relèves, tu fortifies, Seigneur. Et ce nom chasse la maladie. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons demandé cela. Maintenant, nous te disons merci. Merci parce que nous verrons ta gloire. Amen. Mes bien-aimés, asseyez-vous. Je ne sais pas comment Dieu fera, mais il fera. Amen. Il fera. Il agira parce que c'est comme ça. C'est un Père qui est bon et qui est compatissant. Qu'est-ce qu'il est merveilleux. Alors faisons attention, mes bien-aimés, de la manière que nous allons utiliser ce nom. Et parce que derrière ce nom, je le dis, je le répète, il y a une personne qui s'appelle Jésus. Et Dieu, la Bible nous dit qu'il l'a souverainement élevé. Et il l'a fait asseoir, où ça ? À la droite de Dieu, à sa droite, là-haut dans le ciel, Jésus est assis. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, cet après-midi, je veux partager avec vous, avec mes frères et sœurs que vous êtes, et je veux avant tout vous remercier pour votre amour, pour vos marques d'affection, et c'est vrai, vous pensez que nous, on en a besoin. Moi, j'ai besoin que d'une chose, quand je me sens aimé, je peux soulever les montagnes. Parce que je vis de ça. J'ai soif d'amour, l'amour de Dieu, oui, mais aussi l'amour qui vient de mes frères et sœurs. La Bible nous dit que l'amour recouvre une multitude de fautes. La Bible nous dit que l'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Quand on s'aime, on n'est pas là à se fatiguer, à essayer de trouver la petite bête, à voir la paille et dans l'œil de nos frères et sœurs. Non, quand on aime, on voit Jésus dans les yeux, dans le cœur, on voit Jésus chez mon frère et ma sœur. Alléluia. Et je trouve que nous ne parlons pas suffisamment d'amour. Et l'amour, je trouve que on devrait en parler à chaque fois que nous nous retrouvons comme ça. Nous devrions repasser les marques d'affection de Dieu pour nos vies, dans nos vies, à travers nos vies. Amen. On passerait plus de temps. Allô, mon frère, ma sœur, comment vas-tu? Alléluia, je vais bien. Tu réalises combien Dieu est bon, il nous aime. Et cet amour, il l'a pas gardé pour lui, il nous l'a donné en personne de Jésus, mais non seulement il nous l'a mis en nous. Alors, nous devons nous aimer les uns les autres. Je vous dois une chose, c'est de vous aimer. Et quand je vous regarde, je ne vois que Jésus en vous. Je ne veux voir rien d'autre. Voilà, la chair aimerait faire ressurgir les défauts, les choses que... Non, je vois le Seigneur Jésus dans mes frères et dans mes sœurs. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu et je vais faire une première lecture avec vous. Cela se trouve dans le livre des Proverbes. Je vais boire un peu d'eau. Qui veut un verre d'eau? Qui? Toi, Gégé? Mon frère Gérard? Tiens. Merci. Voilà. Un verre d'eau. Une première bénédiction. Vous savez que on ne profite pas, on ne réalise pas les choses que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et quelquefois, on vit en deçà de ce que nous devrions vivre, de la vie que Dieu aurait voulu pour nous, et nous passons à côté de beaucoup de choses. Mais nous allons voir un petit peu ensemble le premier amour, l'amour qu'on avait au début. Vous vous souvenez de cet amour-là, le zèle qu'on avait? On était capable de faire des kilomètres, de sortir dans la 1 heure, 2 heures de route pour venir simplement au milieu de nos frères et sœurs. Pour qui? Pour adorer Dieu, pour lui rendre un culte, pour nous retrouver. Parce qu'on était zélés. Alors je pourrais poser la question, où est passé ce zèle? Le zèle du début, cette ferveur, justement cet amour qui nous stimulait, qui nous motivait à venir nous retrouver ensemble. Où est passé cet amour? Eh bien, quelquefois, c'est un amour, c'est un zèle qui disparaît parce que il y a quelque chose qu'on appelle, et c'est un péché, il y a quelque chose qu'on appelle la paresse, le paresseux. C'est celui qui est là et qui, il est là, il est dans la nonchalance, il remet toujours à plus tard ce qu'il aurait dû faire là. Et petit à petit, la Bible nous parle dans les Proverbes, je crois, Proverbes chapitre 6, ça ne vient pas d'un coup comme ça. Les choses n'arrivent pas d'un coup. La Bible nous parle un peu, c'est ce que j'ai noté, un peu de laisser aller, c'est-à-dire on se laisse aller. On dit, moi j'appelle ça le relâchement. Si au début on faisait très attention à la manière qu'on venait, on s'habillait, on s'apprêtait dans notre âme, dans notre cœur pour venir louer Dieu, eh ben on va venir un peu avec un peu de relâchement, un peu de légèreté. On arrive, la première chose, on va essayer de chercher la petite bête, et parce que nous-mêmes on est dans le relâchement, on va essayer de trouver quelque part des histoires avec les uns les autres. Mais quand on se prépare, on vient. On s'apprête spirituellement. On vient avec du zèle. On dit on va louer notre Dieu, on va lui rendre un culte. Je peux vous dire que ça c'est une bonne chose, ça plaît au Seigneur. Mais avec le temps, tout doucement, vous constaterez que il y a comme du relâchement qui s'installe et vous verrez bien que quand je vous ferai la lecture, vous verrez bien que la façon que Dieu parle de celui qui se relâche, Dieu le met au même niveau de celui qui détruit. Est-ce que vous m'avez compris? Je reprends cette phrase pour bien me faire comprendre. Mais déjà avant de la reprendre cette phrase, je vais faire la lecture. Comme ça, on va se comprendre tous par rapport à la parole de Dieu. Cela se trouve dans Proverbe chapitre 18. Peut-être que certains l'ont lu il n'y a pas longtemps. Et là, le Seigneur, à travers ce moment de partage, ou peut-être, je dis pas que tout le monde est dans le relâchement, attention. Je pense qu'il y a des bien-aimés qui sont là, qui tiennent, mais d'autres, ils sentent un peu que, voilà, il y a comme un peu de laisser aller, un peu de négligence. C'est comme pendant le premier confinement, on s'est retrouvés enfermés comme des bêtes, et au début, il y a certains qui ont réagi en disant, bon, la télé ne jouait pas souvent. Et là, ça a été un bruit de fond toute la journée, parce que tu es seul enfermé, la radio, il faut occuper, il faut du bruit. Et là, tout doucement, on s'est relâché, on a négligé les choses que nous faisions au début et que, à cause du confinement, on est comme pris dedans. Mais Dieu n'est pas celui qui met un poids au-dessus sur les épaules de celui qui a déjà un poids. Il est celui qui enlève. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, Proverbes chapitre 18 et au verset 9. Regardez et lisez avec moi, celui qui se relâche, c'est-à-dire avoir du relâchement, vous savez ce que c'est, je ne vais pas vous faire un dessin, se relâcher, se laisser aller, perdre ce zèle,
Il dit,
celui qui se relâche dans son travail, il est frère de celui... Alors vous voyez comment Dieu considère les choses. Mon frère, ma sœur, Dieu, si tu es dans le relâchement, Dieu te met sur le banc de celle et celui qui détruit. Et c'est vrai. Quand on se relâche dans son travail, on devient, au lieu d'être des constructeurs, des bâtisseurs, on devient des destructeurs. Destructeurs par nos paroles. On va blesser. Tel parle légèrement, blesse comme un glaive. On va juger. On va se relâcher. Il n'y a plus ce côté, faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Faisons attention à nos paroles, à nos attitudes. On va moins faire attention. Quand on se relâche dans son travail, dans sa consécration, dans sa sanctification, on devient frère. Vous avez vu, la Bible nous dit frère, pas ami. C'est-à-dire on s'associe, on se lie. On devient frère de celui et celle qui détruit. Et je disais, veillons pour que rien ne nous éloigne du chemin étroit. Veillons, nous devons nous ressaisir, mes frères et mes sœurs, pour que le relâchement qui veille, qui est là comme une bête pour nous saisir, veillons à, comme dit l'Écriture dans Hébreux, le péché qui nous enveloppe si facilement, secouons-nous, réveillons-nous et refusons de nous laisser, de nous soumettre à tout ce qui viendrait pour nous emmener à nous endormir, à nous faire basculer dans ce relâchement et dans le sommeil spirituel. C'est très grave. Quand je dis c'est très grave, la paresse, je disais au début, c'est un péché. Et le paresseux, c'est celui qui est là et qui n'est pas productif. Le relâchement n'amène pas que la personne, l'enfant de Dieu, soit productif dans sa vie. Quand on se relâche, on n'est pas productif. On devient stérile. On devient comme ce figuier qui était là, qui occupait une place, mais qui ne portait pas de fruits. Mais dites-vous bien, quand vous regardez ce que Dieu dit, ce que Jésus dit concernant ce figuier, Jésus laisse encore la grâce de Dieu. Laisse encore ce figuier planté là, mais si ce figuier ne porte pas de fruits, il y a un jugement qui arrive derrière. Et le jugement, c'est couper. Il faut l'enlever. Il est inutile, il n'est pas productif, il ne porte pas de fruits, il occupe. Mais dites-vous bien une chose, mes frères et mes sœurs. Le relâchement nous amène à la négligence. Le relâchement nous emmène à ne pas utiliser ce que Dieu nous a donné. Chacun d'entre nous, nous avons reçu quelque chose de particulier de la part de Dieu. Et comme nous nous relâchons, nous laissons la paresse s'installer, cette chose que Dieu nous a donnée reste infructueuse. Un peu comme cet homme à qui on lui a donné un talent, qu'est-ce qu'il a fait avec ce talent? Il l'a enfoui. Et il attendait. Il attendait quoi? Au lieu d'utiliser ce que Dieu vous a donné, nous a donné, le faire fructifier, se tenir devant Jésus, prier, jeûner pour que ce que Dieu nous a donné puisse porter du fruit et encore beaucoup de fruits, quelquefois nous vivons une vie chrétienne en autarcie, j'appelle ça, enfermée sur nous-mêmes. C'est notre petite vie chrétienne. Ah, il faut pas nous déranger. On a pris nos habitudes. Mais nos habitudes, les habitudes qu'on a prises ne permettent pas qu'on soit fructueuse. Mais Dieu veut que nous portions du et du fruit qui demeure. Je poursuis. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Il y a ceux qui construisent. Comme Néhémie, c'était un bâtisseur. Il réformait, il arrive, c'est un bâtisseur, un constructeur. Mais il y a ceux qui détruisent. Moi, je les appelle les destructeurs. De quel côté sommes-nous cet après-midi? Sommes-nous du côté de ceux qui bâtissent, qui construisent, ou de ceux qui détruisent? Soyons du côté de ceux qui construisons. Alors j'ai posé la question, de quel côté faites-vous partie? De quelle catégorie de chrétiens vous êtes? Soit vous êtes des constructeurs, soit vous êtes des destructeurs. Ne baissons pas les bras, même si tu as connu l'échec, mon frère, ma sœur. Ne baisse pas les bras. Parce que tous ceux que tu vois autour de toi, que peut-être que tu apprécies, je dis pas que tu adores, parce que on n'adore pas les hommes, on adore Dieu seul et Jésus. Mais tous ceux qui sont pour toi des exemples, ce sont des hommes et des femmes qui ont connu l'échec. Mais ils n'ont pas laissé l'échec les terrasser. Ils se sont relevés et ils ont continué à marcher. Est-ce que tu m'entends, mon frère, ma sœur? Ne baisse pas les bras, même si tu as connu l'échec, même si tu es découragé, même si tu es tenté de tout abandonner. Tu as envie de tout lâcher, tu es fatigué. Non, ne baisse pas les bras. La Bible nous parle dans Hébreux chapitre 12. Est-ce que vous êtes là? J'ai besoin de savoir si vous êtes là. C'est l'après-midi, hein, c'est pas l'heure de la sieste. Il est 2h25, c'est pas l'heure de dormir. Ceux qui dorment, c'est vers 15h30. Alors je vais essayer de finir avant que vous vous endormiez. Vous rigolez? Souvent, quand on est dans la présence de Dieu, quand on chante, tout va bien. Mais quand on prend la parole, il y a comme un petit vent. Il y a un ange de l'adversaire qui vient et qui fait... C'est à ce moment-là qu'il faut lui dire « Sors de là !» Je veux être comme Marie au pied de mon Sauveur et de mon Seigneur, ne laissant tomber aucune parole qui sort de la bouche de Jésus. Alléluia ! Hébreux chapitre 12, une si grande nuée de témoins. Nous avons devant nous, dans Hébreux chapitre 11, des hommes, des femmes, des hommes, des héros, on les appelle les héros de la foi. Ce sont des hommes et des femmes qui ont connu des échecs. Mais ils ont été jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout, malgré les oppositions, les obstacles, les choses qu'ils ont subies, ils ont été jusqu'au bout. Hébreux chapitre 12, j'ai dit, à partir du verset 1er. Voilà ce qu'il est dit. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés, puisque nous avons devant nos yeux une si grande nuée, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de des témoins, il nous dit, rejetons tout fardeau. Voilà la première chose que nous devons faire pour éviter que la paresse, le sommeil, le relâchement nous saisit. Il nous dit, rejetons. Tu prends ta veste, tu prends ton foulard, tu prends ton sac, tu le jettes. C'est un acte que tu fais, tu rejettes cette chose. Eh bien, il dit, rejetons tout fardeau. Le fardeau. Et ensuite, il parle de fardeau et le péché. Ce sont deux choses, les inquiétudes, les soucis qui produisent des fardeaux et qui nous alourdit, qui alourdit notre marche et qui amène quelquefois, on s'assoit et on se relâche. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, nous devons rejeter les fardeaux, tout fardeau, et le péché. Qu'est-ce qu'il fait, le péché? Il nous enveloppe. Il dit pas qu'il nous touche. Il ne dit pas qu'il nous qu'il passe comme ça. Mais le péché a un effet, c'est qu'il nous enveloppe. Il nous enveloppe comme un serpent qui entoure sa proie pour l'étouffer et ensuite l'avaler. Voilà ce que fait le péché. Et la Bible nous dit, nous devons rejeter. Le fardeau est accompagné de quelque chose qu'on appelle le péché et qui amène quoi ? Le sommeil, le relâchement. Et il nous dit, le péché qui nous enveloppe si facilement. Si facilement. Il nous dit, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous avons fait un acte, c'est de rejeter. Quoi ? Le poids lourd. Quoi ? Le péché. Qu'est-ce qu'il fait ? Qui nous enveloppe si facilement. Et c'est vrai. Et il nous dit, courons avec... Voilà ce que nous avons besoin. Vous voyez quelqu'un qui court dans la rue, c'est quelqu'un qui est en mouvement. Vous voyez quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui est stagne. Comme vous, ne bouge pas. Celui qui est en mouvement, je peux vous dire que il va moins s'arrêter sur les choses. Comme il est en mouvement, il court. C'est comme si vous êtes dans une voiture ou dans un train. Vous arrêtez très, c'est très rapide, c'est des flashs. Mais quand vous êtes assis et rien ne bouge, c'est un point fixe. Vous allez faire arrêt sur image, comme on dit. Vous allez vous arrêter en chemin. Et ça, c'est les fardeaux. C'est le péché qui nous paralyse, qui nous bloque, qui nous arrête dans notre marche. Mais il dit ceci, courons. Mon frère, ma sœur, n'oublie jamais que tu es un athlète. Et tous, nous courons dans la carrière. Tous, comme l'apôtre Paul qui dit « je cours ». Il dit pas « je marche ». Il dit « je cours » afin de quoi ? De saisir Christ. Afin d'aller jusqu'au bout, de remporter le prix. Il y a un prix qui nous attend à la fin de notre course. Ce n'est pas un beau cercueil, ni une belle cérémonie d'enterrement. Ce n'est pas les meubles en bois merisier qui rentrent avec toi dans le trou. Non, tout ça reste. Ça va au Secours Populaire, au Emmaüs. Mais la Bible nous dit que nous devons courir. Pourquoi ? Parce que nous devons, il y a un prix qui nous attend au final, c'est la vie éternelle. Et chacun a notre rythme. Il y a ceux qui courent plus vite que d'autres, qui sont beaucoup plus agiles. Il y a d'autres qui traînent justement les fardeaux, les soucis, les inquiétudes. Ils sont encore dans des liens, dans certaines choses qui, on va dire, c'est le péché. Eh ben, ils luttent avec ça, ils combattent. Ils sont dedans, là. Il y en a cet après-midi au milieu de nous. Je vais pas descendre. Non. Chacun se sent concerné parce que le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Eh ben, il y a ceux qui sont encore dans des luttes, dans des combats. Ils essayent d'enlever, de lâcher prise. Il y a des habitudes. Il y a des choses dans lesquelles ils sont assis. Ils sont tombés dedans et ils ont du mal à s'en sortir. Ce n'est pas parce que tu es sur l'estrade que tu es meilleur que celui qui est assis dans les rangs. Non! Nous sommes tous au même combat. Nous sommes tous confrontés aux mêmes choses. Mais nous devons justement, nous devons être de ceux qui ne nous laissons pas envelopper, ni bloquer. Mais nous devons être des exemples, nous devons courir. Pourquoi ? Courir avec persévérance. La course que nous menons doit être accompagnée de persévérance chaque jour. La Bible nous dit, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Il n'y a pas de récompense pour ceux qui s'arrêtent. Il n'y a pas de récompense pour celle et celui qui s'arrête au bord du chemin. Il n'y a pas de récompense pour celle et celui qui dit « Ah, je suis fatigué, j'en ai marre, j'en ai assez de lutter, de combattre, de ne pas dormir la nuit, j'en ai assez, je m'arrête. » Non, mon frère, ma sœur. Si tu as demandé quelque chose à Dieu et que la chose que tu as demandé, Dieu ne t'a pas répondu, ça fait des années, n'insiste pas auprès de lui. Laisse cette chose devant lui et continue à marcher. Mais ne t'arrête pas sur le fait qu'il ne t'a pas répondu pour que tu t'arrêtes. Ne fais pas la tête à Dieu, ne sois pas un enfant gâté. Mais dis à ton Père céleste, tu ne m'as pas donné. Ce n'est pas ça qui m'empêchera de continuer à marcher avec toi. Même de courir, même de persévérer, parce que je ne te suis pas à cause des bienfaits que tu me donnes, je te suis parce que c'est une relation d'amour que j'ai avec toi. Amen. Il a déversé son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Avec persévérance, mes bien-aimés, dans la carrière qui nous est fermée. Elle est ouverte, cette carrière. Elle est ouverte, magnifiquement ouverte. À travers qui ? À travers Hébreux 11. Il y a une carrière qui nous a été ouverte. Jésus est le premier. La Bible nous dit qu'il a été crucifié sur une montagne qui s'appelle le lieu du crâne. Eh ben, tu sais, vous savez, quand on va chercher les minerais, on va les chercher dans des carrières, n'est-ce pas ? Est-ce que tu es là avec moi cet après-midi ? Une carrière, c'est un endroit où il va y avoir des explosions, on va mettre des dynamites pour faire sortir, pour extirper les minerais, pour exploiter quelque chose de merveilleux. Jésus, notre Sauveur, il a été le premier à attaquer cette carrière. Il y en a eu d'autres qui sont venus, mais ils avaient leur imperfection. Que ça soit Abraham, Jacob, David, tous ces hommes-là qui ont précédé Jésus, dans leur cuirasse, il y avait une faille. Oui ou non ? Mais Jésus, celui dont on parle, on a parlé tout à l'heure, il n'y avait aucune faille dans sa cuirasse. Après 40 jours de jeûne, Satan vient, le regarde, tourne autour de lui, cherche la faille. Il n'a pas trouvé de faille chez Jésus. Vous savez où c'est qu'il a trouvé la faille ? À travers des cailloux. Il a dit, voici des pierres, ordonne que ces pierres deviennent. Il n'a pas trouvé la faille chez Jésus. Il a utilisé de la pierre, quelque chose qui était extérieur à Jésus. Et dans tout ce qu'il a fait, les deux autres tentations, c'était pareil. Jésus, quand Satan l'a regardé, il n'a vu aucune faille. Jésus est l'homme parfait par excellence. Amen. Il est l'homme parfait. Quand vous le regardez, il n'y a aucun défaut chez lui. C'est pour cela que tout à l'heure je vous disais, c'est un nom, c'est une personne qui porte ce nom. Mais si vous imaginez combien cette personne, il est beau. La Bible nous dit, c'est le plus beau des fils de l'homme. Et nous sommes venus pour que le Saint-Esprit dégage de notre esprit, de notre cœur, tout ce qui est venu se dresser pour nous empêcher de le voir tel qu'il est. Il est le plus beau des fils de l'homme. Il est merveilleux. Et quand j'ai les yeux fermés, je ne vous vois pas, mais je le vois assis à la droite de Dieu. Il est resplendissant de gloire. Et je n'ai qu'un désir, c'est de me mettre à plat ventre devant lui et de le louer. C'est le plus beau des fils de l'homme. On peut parler de lui jusqu'à demain matin et on va resservir le couvert de Jésus encore et encore. Parlez-moi de lui, Cantique des Cantiques. Parlez-moi de lui. Ne me parlez pas du Covid-19 et des mutants que ce Covid emmène. Après, il va y avoir des mutants anglais, mutants espagnols, mutants du sud, mutants du nord. Mais il change de visage, mais Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il n'y a aucune maladie qui a résisté à Jésus. La Bible nous dit qu'il guérissait toutes les maladies. Toutes les maladies, sans exception. Amen. Les hommes ont donné des noms, arthrose, rhumatisme mal, fibrome, mais toutes ces maladies, quand le nom de Jésus est confessé, ils prennent la fuite. Vous dites amen ? Ils prennent la fuite, ils se retirent loin de celle et celui qui confesse le nom de Jésus dans la foi. Voilà cette si grande nuée de témoins qui sont là devant nous. Ceux qui se relâchent sont mis au même rang, au même niveau que ceux qui détruisent. Faisons attention. Veillons à ne pas nous relâcher. Le relâchement amène un dégoût des choses de Dieu. Quand on se relâche, on n'a plus goût aux choses de Dieu. On le fait, mais c'est comme quelque chose qui est lourd, comme une forme d'habitude religieuse. Ça n'a plus la même saveur quand on se relâche et qu'on a perdu le zèle qu'on avait au début. Je vous ai parlé d'amour tout au début, mais on va finir sur cette note d'amour tout à l'heure. Je sais que tu voudrais que je m'arrête, mais je vais continuer. Non, mais façon de parler, ne vous sentez pas visé, ma sœur est fait. Ah bon? Non, mais on se connaît. On se connaît. Je suis taquin. Je suis taquin. Je poursuis. Le relâchement amène un dégoût des choses de Dieu. La parole n'a plus le même attrait à nos cœurs. Quand nous sommes saisis par le relâchement, la parole de Dieu n'a plus le même effet en nous. Mes bien-aimés, luttons, combattons le relâchement. Je poursuis. Nous allons dans Proverbes, chapitre 6. Proverbes, on y était tout à l'heure 18. Vous revenez, chapitre 6. Nous allons faire un petit tour avec la fourmi, mais c'est pas elle qui nous intéresse. C'est le paresseux. Le relâchement est frère de la paresse. C'est toute une famille. Ils se donnent la main. C'est comme une chaîne. Le relâchement, la négligence, la paresse, le sommeil, tout ça, c'est toute une famille auquel les enfants de Dieu, nous devons veiller contre cette famille pour qu'ils ne puissent pas s'installer chez nous. Qu'ils fassent pas leur nid dans notre cœur, dans notre esprit, même dans notre vie. Nous devons lutter contre ces choses. On est d'accord ? Proverbes chapitre 6, au verset 6. « Va vers la fourmi !» Voilà ce que Salomon, de la part de Dieu, nous pousse à aller vers la fourmi. Pourquoi aller trouver la fourmi ? Parce que la fourmi est un insecte qui, face à l'obstacle, ne recule jamais. Observez-les. La Bible nous dit « Observe les bêtes et elles t'instruiront ». Vous observez une fourmi, j'allais dire une souris. Une fourmi. La fourmi, il y a une branche devant qui fait... La fourmi, ce qu'elle va faire, soit elle passe en dessous, soit au-dessus. Mais la plupart du temps, elle passe au-dessus. Vous avez remarqué ? Alors, à fond dans le documentaire animalier, hein. On arrête de regarder BFM avec Covid, avec etc. Vous basculez sur une chaîne où ils montent les fourmis, vous cherchez ça et vous allez vous régaler devant. Là, vous pouvez regarder la télé. Pourquoi ? La fourmi, si le Seigneur utilise la fourmi en comparaison du paresseux, ça nous montre bien que le paresseux ne fait rien du tout, ne bouge pas. Il s'endort, il se relâche, il est négligent. Il se laisse aller, spirituellement parlant, parce qu'on se fie pas à l'apparence. On peut être bien habillé, mais intérieurement, être sale. Mais c'est intérieurement dont je parle avec vous, on transpose cela sur le point spirituel. Il dit, va vers la fourmi. Fourmi, qui Dieu envoie vers la fourmi? Qui le Seigneur envoie vers la fourmi? Le paresseux. Celui qui est saisi par la paresse, Dieu lui dit, écoute, je ne vais pas t'envoyer vers le lion, vers une girafe, vers un éléphant, mais va, observe la petite bête là, arrête-toi, puisque tu es en train de dormir, tu es paresseux, arrête-toi un petit peu, penche-toi et regarde la fourmi comment elle fait. Considère ses voies, c'est-à-dire arrête-toi, fais attention. Prends soin de t'arrêter sur son mode de fonctionnement. C'est tout un système d'organisation dont les fourmis, ils ont une sagesse. Dieu leur a doté d'une sagesse extraordinaire. Et je crois que les enfants de Dieu que nous sommes, Dieu aussi dit ceci, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui lui fera payer. Non, il lui donnera gratuitement. Nous avons besoin de sagesse, mes bien-aimés. Surtout dans les temps que nous vivons, nous avons besoin que le Seigneur nous donne et nous renouvelle, nous donne une dose encore de sagesse. Pour que nous ne nous laissions pas endormir, ni devenir paresseux. Il dit, va vers la fourmi, considère ses voies, et là, tu deviendras sage. Dieu utilise une toute petite, un petit insecte comme ça pour amener de la sagesse dans le cœur de ses enfants. N'est-ce pas lui qui a fait l'infiniment petit et l'infiniment grand? N'est-ce pas Dieu qui a fait cela? Eh bien, il utilise ce qu'il veut dans la nature pour nous parler. Souvent, je disais à un bien-aimé, comme ça, je lui disais, va sur ton balcon, au lieu de regarder tes plantes qui sont là, en disant, ah, ma petite plante, tu parles à tes plantes, tu deviens un peu, comme on dit, gaga, excusez-moi, on parle aux plantes maintenant, on caresse, lève ta tête, regarde le ciel. Le ciel, c'est quelque chose qu'on est habitué avec, mais quand on s'arrête dessus, c'est merveilleux. Surtout quand un ciel bleu, si c'est un ciel nuageux, le ciel bleu, c'est magnifique. Et je disais ça à cette bien-aimée, je lui disais, mais regarde, lève ta tête, regarde le ciel. Elle avait la tête dans ses plantes. Ne riez pas. Il dit, elle n'a ni chef, la fourmi, ni inspecteur, comme les inspecteurs des impôts, ni maître, c'est-à-dire patron. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est active. Elle prépare en été, quoi? Sa nourriture. Voilà ce qu'elle fait, son activité. Elle a du zèle, elle est active, elle travaille, fourmi travailleuse. Le chrétien doit être un chrétien travailleur, travailleuse. Elle ne doit pas se relâcher. Elle doit avoir du zèle. Elle doit être zélée. Il doit être zélé pour Jésus. Il doit pas se laisser endormir. Où est passé ton zèle du début quand tu as rencontré Jésus? Il est où ce zèle? Il n'y est plus? Tu peux à nouveau revenir. Le Seigneur va te redonner ce zèle. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse. C'est-à-dire, elle fait des provisions pendant la moisson, de quoi manger. Et maintenant, Dieu s'adresse à toi, à moi, dont la paresse peut-être a saisi ou essaie de mettre la main sur nous. Jésus dit, la parole de Dieu nous dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu couché, paresseux? Il n'est pas parlé du coucher quand tu te couches dans ton lit. Il est parlé ici du coucher là-dedans et dans le cœur. Au début, tu étais debout, ensuite tu t'es mis assis et ensuite tu t'es allongé. C'est des étapes, un peu et un peu. Et nous allons rentrer dans le un peu. Paresseux! Jusqu'à quand seras-tu couché? C'est une question que Dieu nous pose. Couché spirituellement. Normalement, tu devais être debout, mais tu es couché parce que il y a le fardeau, il y a le péché qui t'a enlacé, qui est venu comme un poids et qui t'a bloqué et qui t'a mis assis et ensuite qui t'a allongé. Mais il dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Quand est-ce que tu vas te réveiller? Église de Christ, quand est-ce que nous allons nous réveiller? Le monde a besoin de nous, mes bien-aimés. Quand est-ce que nous allons nous réveiller? Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. La nuit vient où personne ne pourra travailler. La fourmi travaille pendant l'été, pendant la chaleur, pendant que tout le monde se relâche, pendant tout le monde se relaxe, elle, elle travaille. Elle ne se laisse pas influencer par le monde, ni par le courant de ce monde. Elle ne se dit pas « j'ai le temps ». Non, le temps lui est compté et notre temps est compté, mes bien-aimés. Bientôt Jésus revient. Comment va-t-il nous trouver ? En train de nous disputer ? Ou va-t-il nous trouver à lui ouvrir la porte en disant « viens, mon bien-aimé, sauveur et maître, entre ». Où est-ce qu'il va nous trouver à nous disputer, comme je le dis à l'instant? C'est pendant l'été que la fourmi travaille. Pourquoi? Parce que Dieu a doté à cet insecte une sagesse, une intelligence. La fourmi sait qu'il y a l'été, mais il sait que l'hiver arrive. Est-ce que nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes tout le temps en disant « on a le temps ». Jésus dit « non, on n'a pas le temps ». La moisson, regarde la moisson, elle blanchit. Il faut prier Dieu pour que Dieu envoie des ouvriers dans cette moisson. Et tu es ouvrière. On est ouvrier. On est des travailleurs pour Christ. Et pourquoi la fourmi travaille pendant l'été? Parce qu'elle sait qu'il y a l'hiver qui va arriver et qu'elle ne pourra plus travailler. Vous savez, encore une fois, j'observais les ours qui vivent dans les hauteurs, dans les montagnes en Alaska. Je regardais cette émission et je constatais que pendant l'été, à cause du changement de climat, vous savez, l'hiver arrive plus vite, l'été est court, enfin bref, le bouleversement, on dit le climat. Eh ben, l'instinct des ours, des grizzlies, c'est de maximum de manger les saumons qui remontent pour aller pondre leurs œufs là. Alors vous les voyez, ils mangent. Alors des fois je dis, mais un saumon c'est pas mal quand même, c'est des bêtes qui font ça. Et ils mangent, ils se gavent parce qu'ils ont besoin d'emmagasiner un maximum de graisse pour l'hiver. Parce que pendant l'hiver, vous ne les voyez pas. Ils sont où? Dans leur tanière, au chaud. Ils ont fait une provision de graisse pour tout l'hiver. Certains chrétiens devraient prendre exemple sur les bêtes, parce que Dieu nous dit, observe les bêtes et elles t'instruiront. Je peux vous dire une chose, le Covid, je parle de ce virus, a bousculé beaucoup dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup qui étaient là, qui avaient complètement oublié de faire des réserves. Et quand la crise est arrivée, allô? Oui, pasteur? Et il suffit que tu ne réponds pas, tout de suite, ils envoient l'éclair. Eh ben, vous savez une chose, je bénis Dieu, parce que cette crise, Dieu a utilisé cette situation pour emmener beaucoup de ses enfants à se regarder dans le miroir, en leur disant, tu t'es appuyé beaucoup sur les hommes. Aujourd'hui, tu t'appuies sur qui? Ils sont complètement déstabilisés, désorientés. Il n'y a plus de culte, il n'y a plus d'assemblée, ils sont perdus. Alors, ils sont obligés de mettre YouTube, porte ouverte, Mulhouse. Ils ont le culte le dimanche matin, à 9h jusqu'à midi. Et ils prennent leur petite assiette, ils mettent le pain, ils prennent un verre, ils mettent le vin. Et ils sont devant la télé, virtuellement, et au moment du culte, quand le pasteur il dit « Amen, Alléluia », ils chantent des cantiques, il dit « Maintenant, on va prendre la Sainte-Seine ». Ils prennent le pain, ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Normalement, les chrétiens devraient se retrouver tous ensemble, et ils partageaient le pain et le vin. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Jésus n'était pas isolé et il prenait la Sainte-Seine tout seul en disant « Ceci est mon corps, je mange le pain, ceci est mon sang. » Il n'était pas seul, il était avec les disciples. Alors aujourd'hui, on va valoriser cette technique, cette nouvelle technique de virtualité évangélique. On va pousser les chrétiens à rester chez eux,
à ne pas se retrouver ensemble, bien sûr, dans les normes sanitaires, comme nous le sommes aujourd'hui. Mais combien, oh, c'est merveilleux. La Bible nous dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer, dites-le, ensemble. Car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Amen. Vous dites alléluia? C'est là. Alors aujourd'hui, tu es chez toi, il y a le vin et il y a le pain. Ça fait que, tout doucement, on va aller vers un temps où on n'aura plus besoin de se réunir comme là. On va nous pousser à rester chez soi, chez nous. On va justifier le fait qu'on est chez nous, on reste à la maison, il faut prendre la Sainte-Cène à la maison. C'est pas ce que Dieu dit. C'est pas ce que le Seigneur attend. La Sainte-Cène, c'est dans une communion fraternelle. C'était une parenthèse. J'enlève ça parce que je pense que je peux boire un coup. Après, je vais m'arrêter. La fourmi, c'est une belle petite parenthèse. J'en suis sûr qu'au milieu de nous, là, il y a des bien-aimés qui, pensant que c'était bien, mais ils le faisaient. Mais ils ne doivent plus le faire. Si on nous confine pendant 6 mois, là, éventuellement, la Sainte-Cène, vous pouvez le prendre à la maison. C'est ce qui a été dit ici par le pasteur Barma. Mais si c'est juste 1 mois ou 3 semaines, on peut attendre. Regardez maintenant, cet après-midi Sainte-Cène, ce matin Sainte-Cène, demain matin 8h Sainte-Cène, demain 11h Sainte-Cène, demain après-midi Sainte-Cène, mardi Sainte-Cène, ça devient quelque chose où on ne discernera plus le corps et le sang. On va tomber dans un excès, dans une forme d'habitude. Et vous savez que l'être humain s'habitue facilement. Ça, c'était la parenthèse. Je finis, c'est un sujet qui est profond, mais qui nous emmènera par la suite à revenir dessus. Il dit ceci, elle prépare en été sa nourriture, la fourmi, elle amasse pendant la moisson, de quoi manger, elle fait des provisions. Et nous savons que la parole de Dieu est un froment qui nourrit l'âme. C'est une nourriture qui fait du bien à notre âme. Et si nous n'avons pas fait de réserve, là, nous sommes dans une période, ceux qui n'ont pas fait de réserve avant se trouvent en difficulté en ce moment. Mais ceux qui ont pris le soin de jeûner, de méditer, de prendre du temps pour lire la parole de Dieu, qui ont fait des provisions, en ce moment, ils sont en train de puiser dans leur réserve. Dans la réserve, comme la fourmi. Elle a, pendant l'été, pendant que tout allait bien, on pouvait se réunir, on avait des cultes, on avait la parole, le dimanche matin, on était gavés, on était remplis, des fois, on se permettait même de dire, ah oui, mais bon, là, je prends, là, je prends pas. On faisait des manières. Aujourd'hui, pas de manières. Pas de manière. Dieu est en train de nous sevrer. Il est en train de faire de nous dégraisser, de nous faire de nous d'enlever tout ce qui est gras, tout ce qu'on a emmagasiné comme connaissance excessive. Il est en train de nous peaufiner. Il est en train de faire de nous des athlètes, parce que nous sommes des athlètes. Et un athlète, vous le verrez pas courir le 100 mètres avec des boulets, des grosses graisses comme ça. Il arrivera dernier, plus que dernier. Mais l'athlète, il a une hygiène de vie. Il a une discipline dans ce qu'il fait, dans ce qu'il mange, son sommeil. Tout est réglé chez lui. Eh ben, Dieu est en train de nous aider à réaliser que nous avons été négligents. Nous avons été paresseux. Mais il nous dit, maintenant, vous allez trouver la fourmi. Il dit pas, allez trouver un tel, allez écouter une prédication quelconque. Il dit, va trouver la fourmi. Ça veut dire, va te mettre dans un coin, ferme la porte et reste devant moi. Je vais t'enseigner. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et il dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Deux questions que Dieu te pose. Quand est-ce que tu vas arrêter d'être allongé? Quand est-ce que tu vas te réveiller? Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Et il dit au verset 10, un peu, ça n'arrive pas de manière brutale, ou en gros comme ça, non, c'est un peu de sommeil. Il suffit que tu sommeilles un petit peu, que tu somnoles un petit peu, c'est-à-dire, il y a des gens qui disent, il dort debout, il dort assis. Un peu de sommeil, regardez, certains peut-être là cet après-midi sont là, et ils sont en train de basculer dans le sommeil. Et d'un coup, quand je crie, ça les réveille, c'est pour ça que je crie. C'est pour les tenir éveillés. Et il y a une technique de sommeil, c'est comme ça. Il y en a qui dorment les yeux ouverts. Ils sont en train de dormir, mais ils te regardent. Il dit, j'aime bien vous faire rire, parce que je suis quelqu'un qui rit souvent. Et vous verrez quand je serai dans le cercueil. Je vais demander avant de partir, faites en sorte que mes dents soient à l'air. Pour que tous ceux qui me regardent et qui pleurent, ils disent, maintenant il est en train de rigoler le frère. Et juste une petite vitre qu'on puisse me voir, comme ça. Je vais au ciel, c'est normal, je suis joyeux. Alléluia. Quand te lèveras-tu de ton sommeil, mon frère, ma sœur? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu, vous voyez, toujours un peu, un peu, un peu, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. C'est-à-dire, quand tu commences à dormir, le voleur peut rentrer et faire ce qu'il veut chez toi. Et au moment où tu te réveilles, c'est quand il est déjà bien loin. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé aller. Et je vous disais au début, pour fermer la parenthèse, Dieu a mis dans notre cœur, le coffre-fort de notre cœur, une clé. Que Satan, je peux vous dire, lorgne dessus, parce qu'il sait que le jour qu'il arrive à nous voler cette clé, il nous vole tout. Mais Dieu nous l'a confiée, cette clé. Cette clé s'appelle Jésus-Christ. Dieu nous l'a confiée. Il habite dans notre cœur. Nous devons protéger. Nous devons le garder précieusement en nous. Veiller à ce que rien ne puisse venir voler, ni nous enlever Jésus de notre cœur. Parce que c'est une clé, que je vous le disais, qui ouvre toutes les portes. Ce nom nous ouvre toutes les portes. Amen. Un peu, et un peu. Et comme on ne veille pas, la pauvreté, c'est-à-dire, nous surprendra comme un rôdeur, et la disette, c'est-à-dire il y a la pauvreté spirituelle, et la disette, c'est-à-dire il y a rien à manger, comme un homme en armes. Je ferme la parenthèse avec une dernière lecture. Est-ce que c'est bien clair entre vous et moi? C'est bien clair, mes bien-aimés? Entre vous et moi, est-ce que c'est bien clair? Deux Chroniques 29. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il y a des blagues qui nous font rire, mais qui sont malsaines. Mais il y a des moments de joie comme ça, que Dieu veut que nous nous réjouissons. Parce que le monde ne se réjouit pas en ce moment. Le monde a plutôt peur. Vit dans la peur. Deux Chroniques 29, la négligence, la paresse peut nous empêcher de prendre possession des choses que Dieu a mis pour nous là sur la table. Il dit ceci au verset 11. Maintenant, mes fils, et je dirais mes filles, dit Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Cessez d'être négligent. Voilà ce que dit le Seigneur. Cessons d'être négligents. Pourquoi? car vous avez été choisis. Nous faisons partie, nous sommes l'objet d'un choix divin. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Nous avons été choisis, élus, Dieu nous a choisis. Et il dit, cessez d'être négligent, puisque tout est à nous là, Dieu nous a pris, nous a sauvés, car vous avez été choisis par l'Éternel. Vous vous rendez compte? Dieu nous a choisis pour que nous soyons son peuple, ses enfants, pour vous tenir, où ça? À son service devant lui. Dieu nous a choisis pour que nous soyons à son service, c'est-à-dire en activité, au service de Dieu. Il dit cessez d'être négligent. Et pour quelle raison? Pour être ses serviteurs. Et pour lui offrir, comme cet après-midi, des parfums. La louange, l'action de grâce, et vous savez que la négligence et la paresse atteignent bien souvent cette communion-là, notre communion, notre intimité, mais aussi ce temps, la louange. On loue plus Dieu, on n'adore plus Dieu, les choses sont faites à la va-vite, parce que nous devenons négligents. Et il dit, cessez d'être négligents, parce que nous avons été choisis par l'Éternel, par Dieu, pour être à son service. Amen. Une petite dernière. Juge. Le livre des juges, c'est après Josué. Le livre des juges, au chapitre 18. Dieu nous a choisis, nous a sauvés, nous a choisis, et son désir, c'est que nous puissions rentrer en possession de tout ce qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et nous devons justement rentrer dans ce que Dieu nous a déjà donné en Jésus-Christ. Il suffit que nous rentrions dans le, et que nous saisissons les choses. Et il dit ceci. Il y a une histoire qui précède ce que je vais vous dire, mais vous le lirez à la maison. Ils revinrent auprès de leurs frères à Tsoréra et à Etchol. Et leurs frères leur dirent, quelle nouvelle apportez-vous? C'est bien ça. Quelle nouvelle apportez-vous? Allons, répondirent-ils. Montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est, non pas bon, mais il est très bon. C'est Juges chapitre 18 au verset 8. Ils dirent, allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon. Quoi? Vous restez sans rien dire? Ils étaient là. On leur décrit le pays, mais c'était merveilleux. Ils étaient comme là, en disant, ouais, négligent. Vous voyez? Ils disent, bon, ouais, d'accord, le pays, hein, la nonchalance, la fainéantise, la paresse, ils sont là. Mais il dit, voyez, celui qui part, il est stimule. Il est pique. Il dit, quoi? Vous restez sans rien dire? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche. Pour aller où? Prendre possession de ce pays. Nous n'avons rien eu à faire. C'est Dieu qui a tout fait. Jésus à la croix a dit, Père, tout est accompli. Et quand il nous a sauvés, il nous a mis assis à sa table et tout était déjà sur la table. Et il suffit que nous prenons, le paresseux, vous savez, il va à la chasse. Il a le courage de se lever pour aller chercher le gibier, mais il n'a pas la force de le nettoyer et ni même de le faire cuire. Mais nous, Dieu nous a gardés de tout cela. Tout est accompli. Jésus a déjà tout accompli. Il suffit que nous venons, que nous venions là devant lui et que nous longeons la main et nous prenons ce qui est sur la table. Vous rendez compte que des chrétiens ne peuvent même pas tendre la main pour saisir les grâces de Dieu, les grâces que Dieu a pour leur vie, parce qu'ils sont devenus, ils sont paresseux ou ils sont là sur eux-mêmes. Ils disent « Ah non, c'est pas pour moi. Ah non, je pense pas que je mérite. » Alors, ils pensent que c'est par mérite. D'ailleurs, il faut qu'ils méritent. Tu mérites rien, Jésus a déjà tout accompli. Dieu te dit « Viens, assieds-toi à ma table et mange. » Tu n'as rien à faire. Il suffit que tu prennes le morceau de pain ou les bénédictions, les grâces de Dieu qui sont là, par la foi, tu les saisis. Alors, qu'est-ce qui te manque? S'il te manque quelque chose, tu n'es pas assis à la table de quelqu'un qui a que quelques bouchées de pain à te donner, tu es assis à la table de celui qui a dit « L'or et l'argent m'appartient ». Et il dit « Si tu me mets à l'épreuve de la sorte, j'ouvrirai les écluses des cieux ». Parce que Dieu a des bénédictions en réserve pour ses enfants. Mais Dieu ne bénit pas le paresseux. Dieu ne bénit pas le négligent. Dieu ne bénit pas celui qui se relâche. Dieu bénit celui qui a du zèle. Alors, nous allons faire cette dernière lecture dans Romains. Pourquoi tu rigoles, ma sœur? Parce que je dis toujours la dernière lecture. Mais bien sûr, avec moi, il y a toujours une dernière. Alors, Romains chapitre... Mes frères, vous qui connaissez la Bible, Romains chapitre 12, j'ai entendu l'écho derrière mon dos, merci mon frère. Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, vous l'avez à partir du verset 11. Romains 12, 11. Vous l'avez, mes bien-aimés? On peut faire la lecture ensemble? Enfin, je fais la lecture, vous suivez, bien sûr. Voilà ce qu'il est dit. L'apôtre Paul qui dit, ayez du zèle. Vous voyez, hein? Et non de là, c'est-à-dire ne soyez pas paresseux. Il dit, ayez du zèle. Tu prendras l'exemple de la fourmi, tu repasseras ça dans ton cœur à la maison, l'activité de la fourmi, et là l'apôtre Paul qui dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». L'Ecclésiaste Salomon dit « Paresseux, va vers la fourmi ». Soyez fervent d'esprit. Alléluia. Tout à l'heure, vous allez élever la voix, mes frères et mes sœurs. Ce que Dieu aime, c'est quand il voit qu'il y a de la ferveur dans notre esprit. C'est pas « oui, Seigneur, oui, non !» De la ferveur. Quand vous allez au stade, au Parc des Princes, au Stade de France, vous supportez votre équipe, vous êtes là comme ça à fond, votre idole, américain, chanteuse ou chanteur, vous êtes fervent, oui ou non? Vous arrivez même à enlever votre veste et à le lancer sur la scène, tellement que vous êtes fervent. Eh ben Dieu, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Servez-le. » Et il dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Et ma dernière lecture, ça c'est la vraie, se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 2. Et nous allons passer à la Sainte Cène après, mes bien-aimés. Apocalypse chapitre 2, vous l'avez trouvé, et au verset 4. Verset 2. Je connais tes œuvres, dit Jésus. Je connais aussi ton travail. Vous voyez, hein, c'est la touche finale que le Seigneur te donne, mon frère, ma sœur, parce qu'il a, il sait pourquoi tu es tombé dans la négligence, dans la paresse. Il connaît la chose, il sait quel est le fardeau qui est là, qui est lourd pour toi. Il connaît aussi le péché dans lequel tu es, qui t'enrôle, qui t'enveloppe. Il connaît tout ça, mais il n'est pas venu pour te juger, il n'est pas venu pour te mettre un poids en plus, il est venu pour t'alléger. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, c'est vrai, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, il le répète, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Vous voyez, la fatigue, le relâchement. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, Jésus avait quelque chose contre cette église, l'église d'Éphèse. Il dit ceci, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as eu du relâchement, tu te relâchais, tu tenais quelque chose et tu l'as laissé tomber tout doucement cette chose. Voilà, ça peut être le don. L'apôtre Paul dit à Timothée, le don que tu as reçu par l'imposition des mains, ranime-le, remets-le au travail, repasse, dépoussière un peu ça. Il y en a certains qui ont reçu de Dieu quelque chose de spécial, ils ne le manifestent pas. Ils sont comme cet homme qui a caché ce talent et qui ne l'ont pas fait fructifier. Il y en a qui n'ont pas élevé la voix depuis des mois, ben ils sont là. Dieu nous demandera des comptes, même pour ça. Il est bon d'élever la voix au sein de l'Assemblée des Justes, et que ceux qui ont l'habitude de le faire souvent se taisent et laissent la place à ceux qui ne l'ont pas fait, que ceux qui ont l'habitude de donner un don donnent, laissent la place à ceux qui ont le don et qui l'ont enfoui, même si elle le donne ou il le donne d'une manière qui est un peu pas comme habituelle, laissons-le parler. Regardons s'il y a le fil, la pensée de Dieu dedans, et laissons-le, encourageons-le, encourageons-la. Parce que c'est un temps que Dieu permet pour que les brebis qui étaient toujours derrière maintenant passent de l'avant. Et ceux qui étaient grasses maintenant se mettent dans un coin comme les ours, qui restent pendant des mois enfermés dans leur grotte. Et quand vous les voyez sortir, ils sont comme ça. Parce que la masse graisseuse s'est fondue, a été utilisée. Et Dieu veut que certains d'entre nous, parmi ses enfants, qui sont comme ça, spirituel, Dieu veut les mettre dans une grotte pour qu'ils passent l'hiver au chaud et qu'ils fassent un régime Weight Watcher. Dieu veut les peaufiner pour qu'ils deviennent des chrétiens remplis d'amour et qui laissent la place aux brebis un peu squelettiques et qui ont du mal à pouvoir venir manger et s'exprimer au sein de son peuple. Vous voyez l'image que je vous donne ? Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, mon frère, ma sœur. Dieu a déversé son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Souviens-toi, je ne peux pas me souvenir pour toi, ni toi pour moi, mais chacun de nous, nous devons nous souvenir là où nous avons lâché cette chose. L'amour, le zèle qu'on avait au début pour Dieu, pour Jésus, l'empressement qu'on avait pour lire sa parole, ce sont des choses que certainement nous avons un peu, on les a lâchées tout doucement. Alors Dieu dit, souviens-toi, souvenons-nous, là, l'endroit, le moment où nous avons lâché cette chose, ou ces choses. Et il nous dit ceci, repens-toi. Et pratique les premières œuvres. C'est-à-dire, le Seigneur veut que nous revenions, que nous retrouvons le zèle du début. Ayez du zèle. Soyez fervent d'esprit. Ayez du zèle et non de la paresse. Et là, il nous dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, mon frère, ma sœur. Ça ne veut pas dire tomber, le péché, des choses comme ça. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'amour, le zèle, l'empressement, cette ferveur. Rappelle-toi qu'au début de ta conversion, tu mettais le feu partout. Aujourd'hui, tu es devenu un pompier. Enfin, tu es devenu une flamme qui ne brille plus. Mais la Bible dit que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume et il ne brise pas le roseau cassé. Et il dit, repens-toi. Nous devons nous repentir. La repentance, c'est pas fait uniquement pour les gens du dehors, c'est nous, les enfants de Dieu. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que Dieu ne veut aucun ne périsse, mais que tous parviennent à quoi ? À la repentance. Voilà ce que Dieu veut. Et il dit ceci, et pratique tes premières œuvres. Sinon, voilà, le couperet, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te... Inclinons notre tête quelques instants.